bonne question pour vous. Est-il possible que Dieu abandonne ses enfants? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui en surprendra sûrement quelques-uns, aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je me réjouis déjà de ce que le Seigneur nous réserve à l'émission d'aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord en entendant les questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse, et encore plus quand on va entendre ensemble les réponses de la parole de Dieu. Alors voici les questions. Pourquoi l'ordre des 12 tribus d'Israël a-t-il été modifié dans le livre de l'Apocalypse? Comment Dieu exerce-t-il son pardon et sa miséricorde envers le peuple d'Israël? Dieu parle-t-il de son Église quand il mentionne Israël dans le Nouveau Testament? A-t-il abandonné certaines tribus d'Israël? Lui arrive-t-il d'abandonner ses enfants? Un chrétien peut-il perdre son salut? L'Évangile sera-t-il prêché dans tous les pays pendant la grande tribulation? L'Église parviendra-t-elle à répandre l'Évangile à travers le monde avant d'être enlevée? Dieu nous jugera-t-il sur le nombre de pécheurs que nous aurons amenés à la repentance un jour? Restez des nôtres, nos réponses ne vont pas tarder. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner et à nous enseigner les Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, c'est merveilleux de savoir que dans le nom de Jésus, on peut te prier et que tu désires nous exaucer, que tu vas nous exaucer. Notre désir, Seigneur, ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est que tu touches nos cœurs profondément, que tu nous transformes par ta parole, qu'elle fasse effet dans nos vies et qu'on porte plus de fruits pour toi, pour ta gloire. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous continuons notre lecture du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, les 12 tribus d'Israël. Lisons Apocalypse, chapitre 7, versets 5 à 8. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. 12 000 serviteurs de Dieu sont marqués pour chaque tribu. Le peuple d'Israël est composé de 12 tribus et nous arriverons à un total de 144 000 pour l'ensemble de la nation d'Israël. L'apôtre Jean prend la peine de nous nommer les 12 tribus l'une après l'autre, afin de nous faire bien comprendre qu'il parle des enfants d'Israël et de personne d'autre. Je ne vois vraiment pas comment on peut tenter de spiritualiser ce texte, mais certains l'ont fait. Leur intention était bien sûr de s'inclure eux-mêmes, ainsi que les membres de leur dénomination, dans ce groupe de 144 000, même s'ils ne sont pas israélites. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis à de nombreuses reprises qu'il reviendrait établir son royaume sur la terre. Ce royaume durera 1 000 ans, comme nous le verrons bientôt. Ensuite, il jugera tous les hommes pour l'éternité. On nous donne ici une liste des 12 tribus d'Israël. Les différents commentateurs divergent d'opinion quant au nombre de fois où ces 12 tribus sont mentionnées. Certains parlent de 13 fois et d'autres de 18 fois. Quoi qu'il en soit, lorsque l'ensemble des tribus d'Israël est mentionné, nous avons toujours 12 tribus. Mais, comme nous le verrons, certains changements sont effectués à l'intérieur de cette liste. Je ne pourrai pas toujours vous expliquer la raison de ces modifications, mais je puis vous dire que cette raison existe. Dieu a son idée en tête. Il exécute le plan qu'il a conçu avant la fondation du monde, même si son intention échappe parfois à mon entendement humain limité. Commençons d'abord par nommer dans l'ordre les fils du patriarche Jacob. Vers la fin de sa vie, il appelle à lui ses fils afin de leur donner sa bénédiction. Nous voyons le compte-rendu de cet épisode au 49e chapitre de la Genèse. La bénédiction du père était très importante car elle conférait certains pouvoirs au fils. Habituellement, le fils aîné recevait la plus grande bénédiction. On se rappelle de la ruse employée par Jacob pour dérober à son frère Ésaü son droit d'aînesse. De plus, la bénédiction du père revêtait un aspect prophétique, comme on peut le voir dans Genèse, chapitre 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Or, lorsque Jacob distribue ses bénédictions à ses fils, il le fait par ordre de naissance de l'aîné au Benjamin. Dans le premier livre de la Bible, nous avons donc, selon cet ordre, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. Tel était l'ordre des fils d'Israël dans le premier livre de la Bible. Notons toutefois que dès cette époque, les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, étaient considérés comme des fils de leur grand-père Jacob. Plus tard, à l'époque du partage de la terre promise, Éphraïm et Manassé recevront tous deux leur part de territoire au nom de leur père Joseph. Lévi n'en recevra aucune, car le Seigneur sera lui-même son héritage. Les 12 tribus à recevoir un territoire lors de la création du pays d'Israël sont donc Ruben, Siméon, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Éphraïm, Manassé et Benjamin. Les modifications dans l'ordre familial. Mais ici, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, cet ordre a été modifié. Je ne pense pas qu'il soit essentiel d'entrer dans tous les détails sur les 12 tribus d'Israël, mais certains d'entre eux méritent certainement d'être mentionnés. Premièrement, on remarque que ce n'est plus l'aîné Ruben qui vient en premier, mais Judas, le 4e fils. Dans notre liste, la tribu de Ruben devrait être nommée en premier, puisqu'il était l'aîné, mais elle vient en 2e. Une partie de l'explication se trouve peut-être déjà dans la bénédiction de son père, dans Genèse, chapitre 49, verset 4. « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Ruben avait commis un acte de grossière indécence, et à cause de cela, il avait perdu sa position de prééminence sur ses frères. Ruben a perdu la première place, mais au moins, il fait encore partie de la liste des fils d'Israël mentionnés dans l'Apocalypse. Or, ce n'est pas le cas de Dan et d'Éphraïm. Ces deux noms sont complètement disparus. Ils ont été rayés de la carte, si l'on peut dire, car ces deux tribus ont conduit le pays d'Israël dans l'idolâtrie, lorsque le royaume d'Israël, au nord, s'est séparé du royaume de Juda, au sud. L'histoire d'Israël nous enseigne que Dan a été la première tribu à tomber dans l'idolâtrie, comme on peut le voir dans le livre des Juges, chapitre 18, verset 30. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Guershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ces prêtres idolâtres ont donc officié sur le territoire de Dan. De plus, ils n'étaient pas des fils de Lévi, mais de Manassé, contrairement à l'ordre de l'Éternel. Et après la sécession d'Israël, la tribu de Dan est devenue un des lieux où on adorait le veau d'or, comme il est écrit dans 1 Roi chapitre 12, versets 28 à 30. Après avoir demandé conseil, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. La tribu d'Éphraïm est également tombée dans l'idolâtrie. Osée chapitre 4 verset 17 mentionne que Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Par extension, c'est tout le territoire d'Israël, le royaume du Nord, qui est visé ici. Mais on se souvient que Jéroboam, un Éphratien, avait pris la tête de la rébellion dans 1 Roi chapitre 11 verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tsereda, et il avait pour mère une veuve nommée Tsérua. Dans notre liste de l'Apocalypse, Dan et Éphraïm sont donc les grands perdants, et Ruben y a perdu quelques plumes. Par contre, Juda a considérablement amélioré sa position, et là encore, la bénédiction de Jacob le laisse clairement présager dans Genèse, chapitre 49, verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Mais ce n'est pas tout. Au verset 10, Jacob lui promet un honneur encore plus grand. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh est une des appellations du Messie à venir. Cette prophétie s'est accomplie lorsque Jésus-Christ, le lion de Juda, est venu sur la terre pour sauver le monde. Sur la liste des 144 000, Lévi a pris la place de Dan. Lévi était la tribu des prêtres sacrificateurs. Leur progéniture témoignera de la puissance de Dieu pendant la grande tribulation, et Joseph a pris la place de son fils Éphraïm. Le Dieu de pardon et de miséricorde. Cela signifie-t-il que Dieu s'est définitivement détourné de Dan et d'Éphraïm? Non, car après la grande tribulation, Dan regagnera une position privilégiée pendant le millénium, comme on peut le voir dans Ézéchiel chapitre 48, versets 1 et 2. La grâce de Dieu peut s'étendre sur tout pécheur repentant. Éphraïm aussi aura réintégré sa place pendant le millénium. Selon Ézéchiel chapitre 48, versets 5 et 6, les compassions de l'Éternel sont immenses, comme on peut le voir dans Osée chapitre 11, versets 8 et 9. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Les tribus de Dan et d'Éphraïm survivront à la terrible épreuve de la grande tribulation, mais elles ne seront pas marquées du sceau de Dieu. Cela peut vouloir dire deux choses. Elles ne jouiront pas de la protection spéciale de leurs frères israélites et leur témoignage pourrait en être affecté. Dans l'Ancien Testament, quand Israël péchait contre Dieu, ce dernier le corrigeait, et parfois sévèrement. On se rappelle les 70 années d'exil babylonien. Plus tard, lorsqu'Israël a rejeté son Messie, Dieu les a exilés une autre fois, pendant presque 19 siècles. Mais Dieu n'a jamais mis un point final à sa relation avec Israël. Plusieurs courants d'interprétation prophétique, particulièrement dans l'Apocalypse, laissent à penser que Dieu en a fini avec Israël et que cette nation ne fait plus partie de ses plans. Je rejette catégoriquement cet enseignement. Quand les Israélites sont retournés à Jérusalem après l'exil à Babylone, ils n'ont pas repris le territoire par la force des armes, mais parce que Dieu avait inspiré par son esprit les rois païens Darius et Cyrus. Et en 1948, quand les Israélites sont retournés en terre promise une fois de plus, ce n'est pas par la force de leurs armes, mais parce que les puissants de ce monde le leur ont permis. Je suis convaincu que ces derniers agissaient eux-mêmes, peut-être à leur insu, sous le contrôle de Dieu. L'Éternel n'a pas fini de nous étonner avec Israël, et un jour, 144 000 Israélites reconnaîtront enfin leur Messie dans la personne de Jésus-Christ. Dieu n'abandonnera jamais Israël. Ils survivront à la grande tribulation comme ils ont survécu à beaucoup d'autres persécutions. Dieu a corrigé ce peuple, mais il ne l'abandonnera jamais. L'Ancien Testament regorge de prophéties concernant cette nation et qui n'ont pas encore été accomplies. Dieu a promis que les Israélites allaient être une nation pour toujours et que le pays leur appartiendrait pour toujours. L'exil n'était qu'un châtiment temporaire. Un Dieu fidèle. Certains pensent que Dieu a abandonné Israël quand ce peuple a rejeté le Messie promis, mais à travers les siècles, Israël a survécu, et cela par la seule puissance de Dieu. Quand on considère l'acharnement des nations à vouloir détruire Israël pendant tout ce temps, une protection spéciale de Dieu s'avère la seule explication plausible. Dire que Dieu a définitivement abandonné Israël revient à remettre en question une bonne partie de l'Ancien Testament. Et comme je l'ai déjà affirmé à maintes reprises, le livre de l'Apocalypse est le carrefour central et la récapitulation de tout le contenu de la Bible. Tous les thèmes majeurs des prophéties bibliques se retrouvent dans ce livre. En conséquence, on peut certainement s'attendre à y retrouver la nation d'Israël. Et, n'en déplaise à certains, c'est exactement ce qui se passe. Ces gens prétendent qu'à partir du Nouveau Testament, quand la Bible fait référence à Israël, c'est l'Église qui est visée en réalité. Permettez-moi de vous dire ceci. Lorsque Dieu parle de l'Église, il la nomme par son nom. Et quand Dieu parle d'Israël, il le nomme par son nom. Il a appelé l'Église par son nom au chapitre 2 et 3. Et s'il parle maintenant d'Israël, il ne parle plus de l'Église, il parle des 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Je ne sais pas si l'apôtre Jean s'est demandé pourquoi Jésus insistait autant pour identifier ce groupe. Israël, les fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël, le nom des 12 tribus d'Israël. Mais quand on voit l'insistance de certains commentateurs modernes pour tenter de faire passer leur système d'interprétation préconçu, on peut dire que cette précaution n'était pas superflue et que Jean était drôlement bien inspiré de la prendre. Ces 144 000 Israélites seront scellés pour témoigner de la personne de Jésus-Christ pendant la grande tribulation. Mais cela ne sera pas facile. J'ai la ferme conviction que, sans le sceau de Dieu, ils ne pourraient jamais passer à travers cette période extrêmement difficile. Mais Dieu a toujours gardé et gardera toujours un reste de son peuple sur la terre afin de témoigner de sa grandeur. Une grandeur manifestée depuis 2 millénaires dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Une application pour le présent. Cela veut-il dire que ce passage ne concerne en rien l'Église et que nous n'avons rien à en retirer? Pas du tout. Nous avons vu que Ruben est parti avec une longueur d'avance sur ses frères, mais à cause de son péché, il a perdu sa position privilégiée. Nous avons vu le péché encore plus grand des tribus de Dan et d'Éphraïm, et ils seront châtiés en conséquence. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. De la même manière, lorsqu'un chrétien séduit par les plaisirs illusoires du monde se détourne de Dieu, ce dernier ne l'abandonne pas. J'ai déjà vu des enfants grandir dans des familles chrétiennes. Ils avaient été exposés à la vérité de la parole de Dieu dès leur plus jeune âge. Et pourtant, une fois arrivés à l'âge adulte, ils se sont détournés de Dieu pour se jeter de tout leur cœur dans le monde. Je n'ai jamais rencontré d'individu plus misérable. De leur propre aveu, malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent plus se libérer de leur esclavage, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool, de débauche sexuelle ou d'une autre forme d'accoutumance que le monde s'ingénie à leur présenter. Certains finissent par comprendre que ce n'est pas par leur propre force, mais par la grâce de Dieu, qu'ils pourront enfin être délivrés. Cela prend parfois du temps. Je l'ai dit et je le répète, un chrétien ne peut pas perdre son salut car il n'a ni gagné ni mérité la vie éternelle. Elle lui a été donnée gratuitement en vertu du sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour payer la dette de tous ses péchés, passés, présents et futurs. Par contre, un chrétien sauvé mais qui se vautre ensuite continuellement dans le péché peut très bien perdre sa récompense. Cette récompense éternelle du chrétien est mentionnée à plusieurs endroits, dont 1 Corinthiens chapitre 3 versets 11 à 15. Nous ne nous attarderons pas sur ce sujet ici, mais nous pouvons très bien voir le principe dans notre passage. Ruben a perdu sa position privilégiée, il a perdu sa première place, mais il n'a pas tout perdu. Il était parti en tête de liste, mais ici, il doit se contenter de la deuxième place. Ruben aurait dû être le premier, mais Judas a pris sa place. Bien plus, c'est par la postérité de Judas que notre Seigneur Jésus-Christ s'est passé. C'est par Judas, et non par Ruben, que la promesse de Dieu, faite à Ève, tout de suite après la chute, s'est accomplie. La multitude rachetée des gentils. Au bénéfice de nos nouveaux auditeurs, rappelons que le terme « gentil » était donné par les Juifs aux païens qui n'appartenaient pas à leur nation. Lisons Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10. « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Cela nous montre que cette foule était composée de gentils, des gens issus de toutes les cultures à travers le monde. En d'autres mots, pendant la grande tribulation, l'évangile du royaume de Dieu sera prêché dans tous les pays. Les 144 000 serviteurs de Dieu témoigneront de sa parole et ils accompliront en l'espace de 7 ans ce que l'Église a été incapable de faire jusqu'ici en presque 2000 ans. Ils atteindront tous les peuples et toutes les langues avec la vérité de la parole de Dieu. Ne nous vantons pas de nos programmes missionnaires. Pendant la grande tribulation, une foule incalculable sera sauvée. Je ne pense pas qu'aucune Église ne puisse se vanter d'un tel exploit. Je ne veux pas dire que l'Église ne parviendra jamais à répandre l'Évangile à travers le monde avant d'être enlevée. Avec la radio, la télévision et l'Internet, nous pouvons bien sûr atteindre beaucoup de gens, mais c'est Dieu qui, par son esprit, conduit les cœurs pécheurs à la repentance. Et il semble que pendant les 7 années de la grande tribulation, le Saint-Esprit se dépassera. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner nos efforts d'évangélisation, car c'est bien à l'Église que Jésus s'adresse quand il ordonne à ses disciples dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais nous serons jugés sur la base de notre obéissance et de notre ardeur à remplir cette grande commission. Nous ne serons pas jugés sur le nombre de pécheurs que nous amenons à la repentance, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Attachons-nous donc à obéir à Dieu en témoignant de sa parole, sans nous laisser décourager si les résultats sont parfois inférieurs à nos attentes. Chers amis, toi qui es chrétien, croyant selon les évangiles, un jour tu peux être celui qui sème, un jour l'autre, celui qui arrose, et un jour, ce sera le jour de la récolte. Oui, cher ami, à toi de continuer à semer, à arroser cette parole de Dieu dans les cœurs des gens. Et un jour, tu en verras les résultats, la semence, l'arrosage et la moisson. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse, chapitre 7, les versets 9 à 17. À vous tous, une bonne et agréable lecture.
Merci, Régent. C'est tellement sécurisant pour un croyant de savoir qu'il ne sera pas jugé sur le nombre de pécheurs qu'il aura amenés à la repentance, mais sur la base de son obéissance. D'ailleurs, mes amis, on sait que lorsqu'un pécheur se repent, encore là, ce n'est pas grâce à celui qui lui a annoncé l'Évangile, mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a convaincu qu'il avait besoin de repentance. Dans le deuxième chapitre de son Épître aux Romains, au verset 4, Paul dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et nous, croyants, on n'a qu'à obéir à Dieu en témoignant sa parole, sans nous décourager par les résultats qui sont parfois inférieurs à nos attentes, comme Régent nous l'a si bien dit aujourd'hui. Personnellement, je peux vous dire que ça me donne beaucoup de joie de simplement obéir au Seigneur qui nous dit trois choses importantes dans le 10e chapitre de l'Évangile de Luc, entre les versets 1 et 12. On voit qu'il ne s'adresse pas juste à ses apôtres, mais aux 70 autres disciples. Donc, ça s'est étendu jusqu'à nous. Et il a dit de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, je pense que beaucoup de croyants le font déjà. Et il dit aussi, partez. Et je me souviens d'avoir entendu un évangéliste qui nous disait qu'on était tous capables de partir. Partir pour faire nos commissions, partir pour visiter nos amis, nos familles, partir pour nous divertir. Donc, on est capable de partir aussi sur l'ordre de Jésus-Christ. Et la troisième chose que Jésus nous commande est ceci. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quelle joie de semer la parole dans le cœur des gens qui ne l'ont pas encore reçue. C'est sûr qu'on a une joie spéciale quand le Seigneur les sauve et quand on les voit grandir, changer par la puissance de l'Esprit-Saint qui habite en eux. Mais encore là, c'est l'œuvre de Dieu. Gloire à lui seul. Mes amis, ceci m'encourage et j'espère que ça vous encourage aussi, frères et sœurs en Jésus-Christ. Depuis quelque temps, il y a des personnes que je vois régulièrement avec qui je partage le merveilleux message du salut en Jésus-Christ. Et même s'ils n'ont pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je sais que le Seigneur veut que je persévère jusqu'à ce qu'il les ait convaincus de péché, de justice et de jugement. Il me reste à les aimer, à continuer de semer et à prier notre Dieu Tout-Puissant pour qu'il brise les chaînes qui les retient captifs. Et toi, mon ami, est-ce qu'il y a des chaînes qui te retiennent captif ou captive? Tourne-toi vers Jésus, Dieu fait homme, celui qui a pris un corps comme le nôtre et qui a pris notre châtiment sur lui en mourant sur la croix. Lui qui est sans péché, repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner ce beau cadeau, la vie éternelle. Il a tout accompli en mourant sur la croix. Tu n'as pas à mériter ton ciel, tu ne peux même pas. Et Jésus a payé ta dette en entier, la dette de ton péché. Alors reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Aujourd'hui, reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et accepte Jésus dans ton cœur. Reçois-le comme ton Sauveur merveilleux et comme ton Seigneur.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.